Apéro spécial nuit de playoff.
Nuit de playoff avec deux matchs 3 qui se sont joués la nuit dernière. Les Sixers qui recevaient les Knicks. Ils étaient menés 2-0 au début du match, les Sixers. Et les Wolves qui commençaient leur série à la maison. Il y avait un partout dans la série entre les Wolves et les Spurs. On a eu droit à un match 3 Wolves-Spurs. Vraiment, vraiment superbe.
Vraiment sympa.
Très, très, très bon match 3.
Ah, on s'est régalé.
Des deux équipes, hein, on va en parler et tout.
Oh, oui.
C'est vrai, hein.
Oui, tout à fait.
Ça tient ses promesses, cette petite série. Hein,
eh oui.
Parce que le match 1 était cool. Bon, le match 2, gros blowout.
C'était un peu la branlée de ce début de série. Ouais.
Ouais, on a débriefé ça il y a deux jours, là, après deux matchs.
On va faire les choses dans l'ordre.
On commence. Chronologique.
Chronologique. Et avant ça, on espère que vous allez bien. La nuit a été active et on sera là ensemble sur les prochains jours, car les demi-finales continuent. Ça y est, on a basculé dans une autre ville.
Ouais.
C'est pour ça que je porte un t-shirt des Lakers, parce qu'on va basculer du côté de Los Angeles ce soir.
Ouais, ce soir, tout à fait.
Avant ça, il y aura un match entre Cleveland et Détroit à Cleveland.
Ouais,
le match a lieu à 21h.
Qui revient à la maison menée 2-0. Les Lakers qui reviennent à la maison menée 2-0. C'est des équipes, genre voilà. Vous voyez, il y a l'équipe là, et juste là, il y a le mur.
Exactement.
Voilà, c'est vraiment, c'est. Voilà.
Tu veux dire que le mur est dans le dos ?
Ouais, il est juste tapis. Tu peux pas reculer, hein. T'as le mur.
Parce que t'es dos au mur. Pour ces équipes-là, vous le savez, c'est le running gag de ces demi-finales de play-off. Vous le savez, c'est important de savoir mettre ses tirs. Et donc, avant de commencer à parler analyse fine, on rappelle à Alex qu'avec les poteaux de Décathlon, vous pouvez apprendre à tirer sur des paniers de basket. Salut,
voilà,
Paul George,
exactement.
Entre les cartons 2 et 4.
Ah oui, Polo, c'est vrai que c'était pas sa nuit hier. Donc, on lui conseille, hein, à Paul George.
Absolument.
On lui conseille le B700. Il peut le mettre dans son jardin. Je pense qu'il a un jardin confortable, l'ami Paul George.
Bon, il a un garage, une salle de podcast, un terrain de basket. Donc,
voilà. Donc, on lui conseille le B700 de chez Decathlon pour s'entraîner. Si vraiment il n'y arrive pas, il y a des petits paniers réglables à hauteur plus basse.
C'est ça.
Voilà, qui rentrent dans les chambres d'enfants même. toujours sur le même site de Decathlon. Mais bon, il y a de quoi s'entraîner.
Tout à fait. J'espère que Marcus Smart s'est beaucoup entraîné dessus là, les derniers jours, parce que c'était un petit peu.
On espère que Marcus Smart, Luc Kennard aussi, ça peut ne pas lui faire de mal. Presque. Mais plus sérieusement, même D'Aaron Fox, tu sais que D'Aaron Fox, ça lui ferait pas de mal. C'est dommage, on se moque de Paul George. Honnêtement, son début de playoff, il n'y a pas du tout à se moquer, qu'on soit bien clair. Juste là, sur ce Game 3,
c'était compliqué.
Avec un Paul George un petit peu plus adroit, il n'y a pas que lui, hein. Attention, on va débriefer ce match et tout, mais ça fait partie des frustrations. Il y a quelques tirs qu'il mettait depuis le début des playoffs que là, il n'a pas mis et ça a fait mal dans ce match.
C'est
dans
ça.
Ce match 3.
Donc, vous pouvez retrouver dans tous les cas, pour ce printemps, les magnifiques paniers des copains de Décathlon dans le premier commentaire de cette vidéo en épinglé. Voilà, vous vous régalez. Et puis, comme d'hab, on continuera le running gag. On aurait pu sortir plein d'autres noms. Voilà, franchement, c'est cadeau. James Harden, si tu veux t'entraîner à ne pas perdre le ballon, il y avait des ballons aussi disponibles. Il y a des coudières. Mm-hmm. Il y a plein de choses.
Bien sûr. Puis bientôt, là, on vous reparlera de tout ça. Il y aura des nouvelles collections de textiles pour l'été et tout.
Bon, absolument,
on y vient.
Tout à fait. Rentrons dans le vif du sujet. Hier soir, on avait donc deux séries qui basculaient dans une nouvelle ville, a.k.a. Philadelphie et Minnesota. Deux séries assez différentes, puisqu'on avait parlé notamment des Sixers qui avaient vécu deux soirées pas faciles au Madison Square Garden, et les Spurs qui, après s'être fait surprendre au Game 1, avaient bien réagi au Game 2. On va commencer dans la East Coast, Alex,
ouais.
Avec les Knicks qui ont donc affronté les Sixers. C'était le Game 3 et on en parlait dans la petite vidéo récap d'il y a deux jours. Il y avait une opportunité à saisir pour les Knicks. C'était, tu vas à Philadelphie, le public va être à fond, ils vont envoyer des coups
ça,
de poing.
Ça n'était pas pleine. Hein.
Non, tout à fait, mais ça va envoyer des coups de poing dans la gueule dès le premier carton et on va voir si tu tiens.
Bah tu tiens.
5 sur 5.
Ouais, tu tiens. Démarrage, on va dire, un peu timide des Knicks.
Super
dans ce
démarrage
match.
Des Sixers.
Très bon démarrage des Sixers. Agressif en attaque. Des choix intéressants sur Jalen Brunson qui d'ailleurs a du mal à démarrer un peu son match. Enfin, Jalen Brunson fait un énorme match, c'est l'homme du match au final. Mais il y a un moment au début de match, au moins le premier quart.
Il y a plus 10.
Ouais, et puis c'est pas si ouf au tir. Il a raté des choses qui m'aident d'habitude et des trucs comme ça. Bon, après, effectivement, sur les trois quarts suivants, il va bien se rattraper. Il va aller chercher tous les lancers qu'il faut. Il va rentrer des gros tirs. Il va prendre le jeu un peu pour lui. Mais ce qui est intéressant, effectivement, on va revenir dans les détails du match. Mais si tu fais les grandes lignes pour les Knicks, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as. Donc, tu as gagné le match, ok. Tu as gagné le match avec un démarrage très timide dans le sillage d'un Brunson qui rentre pas ses tirs. T'as eu un Karl-Anthony Towns avec des problèmes de faute et tu avais OG Anunoby absent pour blessure.
Bien sûr.
Et tu as quand même à la fin pris ce match assez largement. Avec genre, il n'y a pas eu de vrai money time quoi. À un moment donné, non, on va en parler. Hein, genre,
c'est
les Knicks ont été beaucoup devant. Les Sixers, à partir du deuxième quart, parce que dans le deuxième quart, ils mettent un bon gros coup d'accélérateur, les Knicks. Les Sixers sont revenus. Genre là, je notais un moment parce que je voulais me faire le run de fin. C'est-à-dire qu'à 2 minutes 30 de la fin du troisième quart, les Sixers reviennent à moins 2.
Ouais.
Il y a 78-76.
Il y a même moins 4 dans le quatrième quart.
Et dans le quatrième quart, il y a un recollage aussi à moins 4. Mais en fait, sur les 2 minutes 30 qui restent dans le troisième quart, ils se prennent un 7-0 les Sixers. Ce qui fait que du coup, ils sont à 9 ou un truc comme ça, 9 points, je crois, d'écart ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 9 points d'écart. Ouais, c'est ça, 9 points d'écart. Et après, ils reprennent un 23-18 sur le quatrième quart, ce qui finit à 14. Honnêtement, les Sixers qui perdent de 14, c'est mal payé pour eux. Enfin, je veux dire. Genre, je trouve pas qu'il y a un plus 14 d'écart sur ce match.
Non.
Moi, je trouve pas. Hein. Je veux dire, facialement, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le match, le score final est ce qu'il est.
Il n'y a pas plus 2 non plus.
Mais non. En fait, c'est ça le vrai problème pour les Sixers. C'est, je le redis, t'as Karl-Anthony Towns qui a eu des problèmes de faute. T'as Jalen Brunson qui a eu du mal à démarrer son match. T'as OG Anunoby qui est quand même genre the man on fire des Knicks depuis le début des playoffs. Il est chaud comme une braise. Qui est pas là, qui est absent. Donc on se retrouve avec un Mike Brown qui nous remet des minutes à Chamette, qui nous met Miles McBride titulaire. Enfin, tu vois, voilà, qui modifie forcément un peu ses rotations. Il y avait le retour de Mitchell Robinson aussi par rapport au Game 3. Bon, ok. Et en fait, t'as cette sensation que les Sixers ont recollé tant bien que mal et tout, et que les Knicks ont fait non. Les Knicks ont serré la défense, ils ont mis les paniers qu'il fallait mettre, et à la fin tu te retrouves à plus 14, ce qui est très sévère pour les Sixers, mais qui est assez significatif finalement de l'écart entre les deux équipes, j'ai l'impression.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est ça. Karl-Anthony Towns en parlait vachement bien, je trouve, après le match. C'est que les Knicks savaient, on en parlait dans la vidéo précédente, que Philly allait arriver guns blazing. Ils allaient arriver, les Sixers, ouais. T'es à domicile, t'es dos au mur,
ouais,
t'as fait la colle du truc dos au mur.
Tu
sais que les Sixers vont donner. Et d'ailleurs, sur le début de match, Paul George est complètement en feu. C'est le joueur, je crois, qui a mis le plus de 3 points sur ses playoffs en toto, hein, parce qu'il a joué beaucoup de matchs au premier tour et il continue à être chaud au tir. Donc, premier quart-temps, avec l'absence de Giannobi, tu te retrouves notamment avec Josh Hart sur Paul George. Et Paul George, plus grand, notamment, peut en profiter. Et il y a des doubles sur Embiid qui ne sont pas très bien gérés par les Knicks. Et donc, du coup, Paul George est en feu et lance très, très bien ce premier quart. Un des premiers ajustements qui vient de la part de Mike Brown, et donc on doit aussi souligner, c'est qu'il dit « Bon, Josh, on va rediscuter après, mais là, on va d'abord mettre un petit peu plus de Mikal Bridges sur Paul George. »
C'est pas mal.
Sur la suite de la rencontre. Après, les deux vont s'alterner sur Paul George, mais cette bascule permet déjà d'éteindre l'incendie, parce que Paul George est à 15 points, je crois, dans le premier quart-temps, il est en feu total.
Oui, mais quasiment tous ses points dans le premier quart. Hein.
Absolument.
Combien de points il a mis Paul George hier?
Bon, il doit être là. Hein.
15.
Ouais, c'est ça.
Donc, franchement, j'ai pas le détail, parce que je pense pas que ça soit actualisé sur Basket Rêve, donc je peux pas encore aller voir. Mais là, comme ça, je voudrais bien voir à combien il était à la fin du premier quart, effectivement. Il est à 15.
Ah, il est à 15. Rien, de toute façon, c'est simple. On l'a même posté, je crois, sur
okay.
Insta.
S'il est à 15 à la fin du premier quart, ça veut dire que c'est bien ça. Il n'a pas mis un seul panier en dehors du premier quart. Tu l'as posté. Ah oui, voilà. Ok, autant pour moi.
On l'a mis sur Insta avec la team. D'accord. De 15 points à 6 sur 9 au tir, 3 sur 4 à 3 points dans le premier quart-temps. Et puis après, on
pas
bascule.
Après.
Et après, 0 points à 0 sur 9 au tir.
C'est bien ça.
Pour le reste du match. Donc, il y a ce premier ajustement qui est fait côté Knicks. Comme tu l'as dit, il y a. Je veux dire, c'est un début de match où tu es en mesure de te dire bon, bah, c'est peut-être celui que les Sixers vont prendre. Paul George est chaud, Karl-Anthony Towns va avoir des problèmes de faute, Jalen Brunson n'est pas dedans, mais ce groupe-là trouve des ajustements et des ressources. Et moi, je trouve l'entrée de Landry Shamet excellente à la fin du premier quart. Là, il met un 3, on dirait, dans le corner avec la planche, enfin, un truc, un espèce un peu extraordinaire.
Mikal Bridges, très bien aussi d'entame de match.
Mikal, formidable, tout à fait. Ça se prolonge sur le second quart,
ouais.
Qui est un des cartes en référence des Knicks là, sur cette série.
Et tout à fait. Le second quart, carte en référence,
c'est
je suis complètement
fabuleux.
D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce premier quart où ils se font quand même tenser fortement, ils en encaissent 30 ou 31 points, je crois. C'est quand même pas mal. Ils arrivent quand même à scorer, en fait. C'est là où les Sixers peuvent aussi avoir des regrets. C'est que dans un premier quart où ils ont fait le taf, ils auront bien rentré dans la bouche, ils ont été agressifs en attaque de l'autre côté du terrain. Alors que Brunson, tu vois, genre qu'il y avait des. Les Knicks, c'était pas. Y avait, tu le dis, Mike Brown a dû faire des ajustements et tout. Ils n'ont pas réussi à serrer suffisamment de l'autre côté du terrain. En fait, finalement, à la fin de ce premier quart, ils n'ont que 4 points d'avance. Ah. Sixers. Et ça.
Alors, face... tu fais ton meilleur quart possible.
Exactement. Mmh. Pas offensivement. Ah, oui, pas défensivement, pour le coup. Et ça, face à ces Knicks-là, et c'est ça qu'il faut, qui est très intéressant pour ces Knicks-là et potentiellement pour la suite, parce que maintenant, ils mènent 3-0. Donc, vous connaissez la stat quand les équipes mènent 3-0, tout ça, tout ça. Mais. C'est très intéressant, c'est-à-dire que dans un quart pas si ouf, où ils se font rentrer dans la bouche par une équipe déterminée, où je répète, il n'y a pas OG Anunobi qui est en feu, il y a Brunson qui a du mal à démarrer son match, ils arrivent quand même à mettre 27 points.
Ouais.
Et c'est une force.
Non, non, mais
c'est une force qu'ils ont, ces Knicks, c'est que les empêcher de scorer, c'est compliqué quand même.
Tout à fait, alors que pour autant, dans ce genre de scénario, on s'attend à un gros cas Anthony Towns. Quand ça se passe mal pour Jalen Brunson et que tu as un début de match où défensivement c'est difficile. 4 va avoir un temps de jeu réduit de par sa situation de faute.
Ouais.
Mitchell Robinson, tu l'as dit, fait son retour. Il y a notamment du Akamich. Alors il y a magnifique alley-oop poster là, sur mise en jeu sur Joel Embiid.
Oui.
Où c'était quelques règlements de compte entre les deux parce qu'on sait qu'il y a
il
un historique.
Oh, bah, il se kiffe.
Mais Mikal Bridges, qui est souvent dans chaque franchise, il y a un petit peu un espèce de bouc émissaire. Alors parfois c'est Karl-Anthony Towns, mais Mikal Bridges est souvent celui qui, c'est un peu le martyr, c'est le mec sur tout au long de la série régulière qui a été beaucoup critiqué
depuis le début de la série
avec Kat et aussi sur la série précédente on se disait bon Mika attention c'est quoi ces matchs face aux Hawks, un point en 30 minutes, enfin, et là il fait déjà un bon, très bon premier match,
un bon début de série contre les Sixers, rien à dire.
J'avais parlé surtout du game 2 où il a été clutch aussi, il a mis des mi-matchs et là il fait son match référence parce que du coup il aide vachement défensivement sur Paul George. Il est actif et il n'hésite pas en attaque.
Il met ses tirs.
Et du coup, ça permet à New York de se dire attends, mais on est à la mi-temps. Ils sont à combien à la mi-temps les Knicks? Ils mènent de. Je sais plus combien.
Non, ils mènent de.
Non, mais pas de.
Je sais pas,
12,
je fais des calculs mentaux, mais ils mènent de 8.
Oui, tu mènes de 8.
T'es 8, tu mènes.
Tu mènes de 8 avec un Brunson qui, gentiment,
qui n'a pas encore chauffé.
Mais n'a pas encore chauffé.
Tout à fait.
Josh Hart a mis des points. Chamet et Mikal Bridges sont les meilleurs scoreurs. T'as même pas un gros Karl-Anthony Towns, donc on va voir sur la deuxième mi-temps ce que ça donne. Et jamais les Knicks n'ont vraiment, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais ils n'ont jamais donné le sentiment que ces Sixers là pouvaient entretenir un réel espoir. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un moins 2, moins 4, comme tu l'as dit, il y avait toujours une réponse derrière.
Toujours une réponse. Ils ont montré aussi, et ça, faut rendre hommage au recrutement des Knicks qui a été fait cet été et à la façon dont Mike Brown l'a utilisé tout au long de la régulière et dont il utilise maintenant cet effectif en playoff. Exemple tout con, donc là Bastien a complimenté, effectivement t'as raison, très bonne minute de Landry Shamet qui a récupéré pas mal de minutes, il a joué 26 minutes hier parce que en l'absence de Giannini, c'est lui qui a été choisi par Mike Brown pour avoir le plus de minutes pour boucher un peu le trou. Après il a réparti des minutes sur Josh Hart et pas mal sur Mikal Bridges, enfin sur les Iron Man quoi,
oui,
tu vois, voilà, dans l'aile. Et il y a aussi à noter les minutes de Jordan Clarkson, qui il met deux tirs sur les 3-4 qu'il prend, mais surtout moi par exemple ce que j'aime bien là dans ces Knicks là, et ça montre aussi toute la mentalité de ce groupe et toute la détermination de ces types, genre depuis quand Jordan Clarkson c'est un arrière qui va se battre au offensif et tout là,
c'est
de quand ça c'est, moi je l'avais après Jordan Clarkson, ça a toujours été un joueur très intéressant en sortie de banc et tout, mais c'était plus un sixième homme en mode pétard ambulant. Les soirs où il est en feu, c'est super, quoi, tu vois. Ouais. Et un scoreur à la Lou Will ou dans la lignée de ces mecs-là, avec beaucoup de talent et tout. Mais Jordan Clarkson, qui est pas trop si. Enfin, qui fait ce qu'il faut pour être le moins ciblé possible en défense, qui vient aider au rebond défensif parce qu'il il se place et puis il vient sneaky gratter des petits rebonds. Mais là, Jordan Clarkson qui vient gratter des rebonds offensifs, tout, c'est que du bonus. Et donc. C'est ça qui est vraiment. Je veux dire, pour les Sixers, c'est dur à encaisser parce qu'il y avait sûrement un coup à jouer dans ce match après le premier quart qu'ils avaient posé.
Oui.
Mais pour les Knicks, c'est au niveau confiance, ce
c'est
genre
bonheur.
De match, c'est incroyable.
C'est bonheur. Écart de points du banc, 29 à 11.
Oh, ils les ont tabassés.
On a parlé bien comme il faut de Jared McCain qui s'est régalé là sur le match précédent avec le Thunder face aux Lakers. On a parlé du fait que les batteries étaient carbo à la fin du Game 2 au Madison Square Garden après un très long et difficile round 1 contre Boston. Là, le banc, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, Quentin Grimes, t'as fait le même match que lui, Alex, hier soir. Enfin, t'es dur, mais... Tu vois ce que je veux dire,
je vois ce que tu veux dire.
L'apport du banc des Sixers,
non,
c'est quand même très difficile parce que vu que chez les titus, il y a quand même un bon boulot qui est fait sur Tyrese Maxey, quand même, hein, parce que pour le maintenir sous la barre des 20 points, il faut travailler collectivement. Il y a encore 44 minutes pour lui. et on voit justement tout le travail défensif de Senix.
En fait, il a pas beaucoup de... il prend combien de tirs?
Non, il prend que 12 tirs, il est efficace. Mais le truc c'est que
il prend que 12 tirs.
Ouais, tout à fait. Donc ils font exactement ce qu'il faut pour empêcher de à Maxi de... Je voulais juste charrier l'ami Quentin Grimes parce que un de ses rôles et de son rôle notamment, ce serait de faire ce que Landry Shamet a fait hier soir.
Oui. Oui.
Et ne le fait pas.
Oui.
Et sur le début de la série, ne le fait pas. Alors, c'est un joueur streaky, ancien des Knicks, qui est capable d'avoir des gros coups de chaud, mais là, on n'y est pas en l'apport de banc des Sixers. Il y a Barlow qui est super, mais sinon, c'est difficile. Quoi.
Voilà. Et c'est aussi la différence entre ces deux équipes, parce que je le répète, t'as pas OG Anunoby, oui. Donc tu prends McBride, tu le mets titulaire, donc t'enlèves un mec du banc. Tu donnes des minutes à Shamet tout d'un coup, il en avait pas eu autant depuis un moment là, Shamet mine de rien, boum, pas de problème. J'ai dit Clarkson vient se battre, Mitchell Robinson est de retour, enfin en gros les Knicks se sont appuyés sur une rotation de 8 joueurs hier,
oui.
Alors qu'il n'y a pas Anunoby un titulaire, tu vois, donc ils ont toujours, en fait même quand si tu leur enlèves un titulaire, ils ont toujours un noyau de 8-9 gars. Ça montre des choses très intéressantes pour eux, je dis au niveau confiance pour le groupe et tout. Autre chose que je trouve intéressante, c'est ok, Karl Anthony Towns a eu des problèmes de faute, donc, et j'en ai au moins une, voire deux en tête qui sont clairement évitables, qu'aurait pu lui permettre de... Parce que du coup, il n'a jamais été en rythme dans ce match, ils n'ont pas pu construire leur attaque autour de lui. Dès qu'il était sur le terrain, les Sixers le ciblaient, bah normal, parce que le mec pouvait pas trop faire de faute et tout, puis il les faisait quand même. Malgré ça, non seulement, t'as raison, Maxi a été très bien défendu, il n'a pas pu prendre les tirs qu'il faut et tout. Alors on peut dire ouais, ils ont eu de la chance que Paul George baisse de régime. C'est vrai que la baisse de régime de Paul George handicape la défense des Sixers, c'est indéniable. Mais il faut souligner aussi le bon travail qui est fait sur Joel Embiid aussi. Un, Joel Embiid, on l'emmerde, on le laisse pas se mettre dans ses spots et tout, son pourcentage au tir s'en ressent.
Kat l'a attaqué hein.
Et Kat l'a attaqué, Josh Hart l'a attaqué, enfin ils attaquent Joel Embiid. Il est pas à 100% hein, Joel l'a clairement. Et en plus, comme depuis ses grosses blessures au genou, il se déplace plus pareil latéralement et tout, ces Knicks-là ont aussi tout un plan de jeu qui consiste à attaquer sur Joel Embiid au large un peu, ou au moins l'écarter, l'emmerder, l'obliger à bouger et tout. Donc Joel, il lâche pas le steak, hein. Il fait de son mieux, mais il passe pas un bon moment dans cette série. Hein. Il passe pas un bon moment.
C'est compliqué.
Là-dessus, les Knicks font vraiment ce que les Celtics auraient dû faire et n'ont pas fait.
Ah,
et
oui.
Si les Celtics voient ce que sont en train de faire les Knicks,
ça,
putain, on aurait pu le faire. Hein.
Ils sont à Cancun.
Putain, c'est vrai.
Ils avaient plein de regrets.
Ah ouais.
Et d'ailleurs,
ah ouais.
Moi, quand j'ai
ils peuvent vraiment avoir des regrets.
Quand j'ai vu notamment le match, personne ne reviendra sur le magnifique exploit de ces Sixers au premier tour de revenir d'un 3-1 lead. On était quoi? 95% de la planète basket à attendre un Knicks-Celtics en demi-finale. En tout cas, on en parlait
en, tout cas,
en perspective.
Les Celtics étaient favoris.
Les Celtics étaient favoris. Ouais. On attendait forte cette demi.
Ouais.
Elle n'a pas eu lieu. Fait chier aussi, et c'est là que les Celtics peuvent doublement s'en vouloir, c'est qu'on aurait pu avoir un autre type d'affrontement. C'est-à-dire que là, Philly essaie de tenir. Il y a 3-0. C'est difficile. Tu l'as très, très bien dit. Maintenant qu'il y a 3-0, bah, on connaît les chiffres. Hein. Ça va être dur. Quand tu abordes le Game 4...
Ouais.
Comment tu fais quand t'es Philly? Parce que moi, il y a un truc et je te pose la question. Tyrese Maxey, tu as magie hier, très bien défendu notamment, mais si on prend purement numériquement, Tyrese Maxey est le quatrième joueur qui prend le plus de tirs chez les Sixers.
Alors, je suis d'accord avec toi, ça c'est un problème. Nick Nurse et son staff et Maxey doivent en parler et doivent absolument faire bouger cette tendance. Ok, la défense des Knicks essaye de le couper du ballon, de le presser assez haut, de l'obliger à lâcher la balle. Mais là, il va falloir trouver des moyens, un écran, deux écrans, j'en sais rien, trois écrans, je m'en fous en fait. Il va falloir trouver des moyens, ou alors faire monter la balle plus par des Paul George, trouver Embiid et Maxey qui se déplacent sans ballon. Mais clairement, en finition, t'as envie que ça soit Maxey qui prenne le plus de tirs et pas qu'il soit le quatrième mec avec le plus de tirs de ton match. Ça,
Maxey a pris autant de tirs que Josh Hart.
Non, c'est pas possible. Ça, c'est clairement là-dessus. Bravo à,
Knicks, mais...
à la mise en place tactique des Knicks. Mais ça, les Sixers, c'est un angle sur
c'est
lequel ils peuvent avoir des regrets. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les Celtics ceci, les Celtics cela. Mais attends, les Sixers, ils ont envoyé du sale au premier tour. Ils sont capables de mieux. Dans le Game 2, il leur manque pas grand-chose pour arracher un match à New York. Mm-hmm. Là, comme je l'ai dit, je trouve que 14 points, c'est très sévère à la fin. Il y a eu des moments où, effectivement, tu l'as bien dit, Bastien, les Knicks ont réappuyé, leur ont remis la tête sous l'eau et ont montré une certaine supériorité. Mais on connaît ces Sixers, ils vont pas lâcher le steak comme ça. Clairement, offensivement, là, 94 points, tu ne peux pas battre les Knicks quand tu mets pas 100 points. ces Knicks-là, là, c'est compliqué de les battre quand tu mets pas 100 points. Très compliqué.
Très chaud, trop chaud.
Donc peut-être que la défense des Sixers, en s'organisant un tout petit peu mieux, peut éviter d'en prendre 106, 108 et peut peut-être en prendre que 100, 102, 103 ou quoi. Mais si mais il va falloir marquer aussi ce tarot-là.
Je crois
et
que c'est
faux maxi.
Mais bien sûr, je crois qu'on avait parlé dans la dernière vidéo du fait que les Knicks, s'ils ont une soirée à peu près correcte au tir, il n'y a pas de discussion. Et s'ils ont une soirée un peu en dessous, pourquoi pas ? Ils sont à 9 sur 27 à 3 points à New York hier soir.
Non, non, c'est pas encore ça, New York, je suis
c'est
d'accord.
Enfin, je veux dire, c'est pas une soirée où.
Même les lancers, hein, ils en lâchent combien ? Des lancers, ils en ont raté plein, hein, t'en bouges pas.
Après, il y a l'ami Mitch qui est passé
oui,
par
bah,
là.
Oui, mais.
Donc, non,
mais
parce
t'es
que...
à 23 sur 32, t'es qu'à 72%. Hein,
oui, oui.
Bah, ça, c'est bien joué de la part des Sixers.
Bien sûr, je fais juste la remarque parce que j'ai vu Joel Embiid notamment, et je comprends après, c'est... lui, il est comme ça. Il a été interviewé après le match en disant ouais, je comprends pas, eux, ils ont eu 32 lancers, nous, on en a eu que 16. J'imagine que c'est bien quand New York gagne.
Il y a 8 lancés de Mitch Robinson.
Merci, c'est ce que j'allais dire. Joel Embiid dit j'imagine que c'est bien quand New York gagne, ils ont eu deux fois plus de lancers que nous.
Oh,
Joel, là pour le coup, personne ne reviendra sur ce qui s'est passé récemment, ça a été extraordinaire. Je ne pense pas que le match se joue là-dessus, surtout quand Mitch Robinson a été hacké et qu'il en a, lui, il a 8 à lui seul.
Il est hacké, donc là, il veut pas que les arbitres sifflent les hacks. C'est une tactique. Donc là, il en a déjà 8, donc 8, t'en étais à 24. Après, c'est Brunson qui allait en chercher pas mal.
Brunson a cherché
oui,
pas
Jalen
mal.
Brunson a eu des lancers. Oui.
Voilà.
Moi, tu sais quoi
Et si on a eu plus au
Maxi, il a pas eu de lancers. Et c'est pas de la faute de l'arbitrage.
Non.
C'est de la faute des certaines mises en place tactiques des Sixers et aussi de Maxi. Hein, parce que.
Bah faut y aller, on est au mur.
Ouais, Tyrese, il a le droit. Là, il y a des phases où je l'ai trouvé un peu pas assez mordant, on va dire, où on le connaît plus mordant. Alors peut-être, est-ce que c'était des consignes ou est-ce qu'il s'est dit attends, je suis ciblé, je vais distribuer à mes copains. Paul George, il est en feu. Pourquoi pas. Mais là, Tyrese Maxey, il doit prendre ses responsabilités plus. Et clairement, il doit avoir des lancers. Donc non, pas du tout d'accord avec Embiid là-dessus. Hein. Bon.
La très mauvaise nouvelle, j'ai l'impression, en perspective du match prochain et de la suite de la série, c'est que autant Atlanta. On peut discuter, mais il y avait un peu de personnel pour essayer de coller à la culotte de Brunson. Autant là, comme on l'a dit sur le début de match, c'était difficile. Mais alors, quand l'autre y démarre, Philly, il n'y a pas... On a testé VJ Edgecom, on a testé Kelly Oubre, on a testé tout type de couverture. On avait parlé dans la prévue de cette série, Brunson, c'est quoi la meilleure couverture côté Sixers possible sur lui ? C'est compliqué, quoi.
Bah, c'est très compliqué. Et d'autant plus que parce que les Hawks avaient montré avec leurs arrières longs la Dyson Daniels et Nickel Alexander Walker qui avaient moyen de gêner un peu Brunson. Dès lors que les Knicks se sont mis à faire bouger la balle et trouver Brunson dans d'autres types d'espaces, il y avait Dyson Daniels ou pas, ça changeait plus rien du tout. Donc il faut aussi effectivement les Sixers n'ont certainement pas vraiment le personnel. Faudrait un Edgecombe plus expérimenté ou des bon, peut-être des prises à deux encore plus hautes, peut-être des choses comme ça. Mais en tout cas, il faut aussi souligner le fait que aujourd'hui et depuis maintenant 6 matchs, oui c'est ça, ils étaient menés 2-1 par Atlanta dans ces playoffs.
C'est un rouleau compresseur.
Ouais, l'attaque des Knicks, quoi qu'il arrive, elle score. Je répète, l'entame de match, Brunson, il n'est pas dedans. Ils mettent quand même 27 points dans leur premier quart. La balle, elle circule. Car Anthony Towns, les problèmes de faute, les machins. Donc, ce n'est pas vraiment lui le hub offensif habituel. L'attaque score quand même. Et donc, il est là aussi le problème pour la défense de Philly. C'est que non seulement, ils n'ont pas trop le personnel pour Brunson et tout. Mais en plus, ils n'ont même pas trop le personnel tout court, en fait. Parce que Embiid peut se faire cibler. Kelly Oubre, Paul George, ils font de leur mieux. Ils essayent et tout. Mais c'est très compliqué pour eux. Donc, je pense qu'ils doivent essayer de serrer, jouer un tout petit peu plus tactiquement. Mais surtout, ils doivent essayer de trouver le moyen d'être eux aussi vers les 102, 103, 104, 105,
allez,
106 points.
Allez, on y va.
Eux aussi.
On y va, tout à fait.
94 points, je répète, ça passera pas.
Non. Les Knicks sont à une victoire de retourner en finale de conférence, après y avoir été notamment l'année dernière. On va surveiller tout ça. La question fatale, est-ce qu'on va rejouer au Madison Square Garden ou est-ce qu'on va sortir les balais ?
Putain.
Moi, je dis c'est le Tyrese Maxey game. Vas-y, mets en 40, là, prends 26 tirs. Mets en 40, Sixers win. Et on va à New York et on laisse Jalen Brunson nous terminer.
Putain, je suis pas sûr.
Mais attends, je te dis pas ça avec certitude. Hein, parce qu'en plus, dans la salle, là,
Hey, ils jouent à domicile, les frérots.
Bah, le problème, c'est.
Au secours.
Qu'est-ce qu'ils foutent, Philippe? Tant, normalement, c'est une ville de basket, quoi. C'est quoi ce bazar?
C'est une ville de sport. Très grand fan de sport.
Ouais, voilà, quoi. Bon.
Mais bon, t'es à, comme on l'a dit, t'es à, trois quarts d'heure, de Gotham.
Oui,
les mecs,
les,
ils arrivent.
T'es pas tout à fait pleine, la salle. Hein.
Non, non, bah.
Donc, il y a aussi un sujet là-dessus. Non, mais si, je vais te suivre. Je pense quand même qu'un Tyrese Maxi Game, 105 points. Tu cibles Carl Anthony Towns encore, peut-être qu'un Bridges qui shoot un peu moins bien. Je pense que OG Anunoby jouera pas le match 4 non plus. Ils vont prendre zéro risque à l'Enix.
Normalement.
Moi je suis l'Enix, je prends zéro risque. Donc t'as une occasion, t'as quelque chose. Allez, 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 allez. Ça retourne à New York à 3-1. Par contre, s'ils en gagnent plus qu'un, les Sixers, là où ça... on en est dans la série, c'est super.
La série n'est pas finie, comme ouais, dirait les fans.
Elle
n'est
pas finie, mais si t'en gagnes plus qu'un, c'est chaud.
Tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez, évidemment, de ce match d'hier soir et de la suite. Je rappelle que le Game 4, ce sera dimanche à 21h30, juste après la magnifique loterie de la draft qui sera commentée en direct. Je ne sais plus, je l'avais mis là. Pif, paf, voilà, je le remets juste. On sera à 20h30 sur Twitch.
20h30
et
sur Twitch.
Donc, 21h, c'est le début de l'événement. 21h30, Game 4. Knicks, Sixers ou plutôt Philly, New York. On va aller du côté de Minneapolis,
ouais,
si ça te va,
ouais.
Pour aller rejoindre nos amis les Spurs qui étaient donc en déplacement chez les Wolves. On avait une série à un partout, match très important. Hein. Qui va prendre l'avantage dans cette série? On avait Anthony Edwards de retour, on en avait parlé, on avait vu ce que ça pouvait donner sur
retour,
le Game 1.
Ouais, en fait, il est là depuis le début de la série. En fait.
Tout à fait, mais il avait eu notamment du temps de jeu en sortie de banc.
C'est
là,
vrai.
On essayait de voir ce que ça pouvait donner avec lui en tant que titulaire, avec un gros temps de jeu. Victoire des Spurs.
Grosse victoire.
Grosse victoire. On va parler de plein de choses, hein, évidemment, de l'alien, notre ami préféré de la zone 51. C'est une victoire des Spurs. Je vous montre juste le score final pour ceux qui ne l'ont pas eu et qui se réveilleraient peut-être en tardif ce samedi. 115 à 108. Dans un match où Santonio n'a jamais mené de 12-15.
Si, au début.
Enfin, au début, mais non, mais 18-3, quoi.
Ouais, mais...
L'espèce de 18-3.
Il est bizarre, ce match.
C'est ça.
Il y a 18-3 à... Et il y a 18-3 à un moment dans le premier quart.
Il n'y a pas un shoot qui rentre.
Il y a un moment, ça reste à 11-1 pendant quoi, 3 minutes au moins. Il n'y a pas de panier.
C'est
Benny Hill là.
Bien sûr. Ce que je voulais dire par là, c'est que sur le match, une fois qu'il y a ce 18-3 là et que Minnesota revient bien, parce qu'à la fin du premier quart temps, il
n'y
a qu'un point d'écart. Ouais. Mais tout le long de la partie,
c'est
dans le match au global, on n'est pas sur des Spurs qui mènent de 10 ou les Wolves qui mènent de 10. C'est un match assez serré où ça se rend coup pour coup.
En fait, tu as le début de match où les Wolves rentrent pas un tir.
18-3, 11-1.
J'ai noté là.
Ah, c'est le premier panier, c'est
ils
Rudy.
Ont démarré,
quoi, il y a 9 minutes.
Ils ont démarré.
Je crois qu'il y avait 4 minutes à jouer, il y avait 18-3.
Est-ce que je l'ai noté ça? Ils ont démarré à 1 sur 15 au tir, les Wolves, le match.
Ouais.
Ça pique. Il y a eu 18-3, tout à fait.
Je vais vous montrer le play by play.
Même tu peux. Ouais. First quarter, ouais. Il y a.
Je regarde un moment, mais on va arriver sur un score. Hop, hop, hop. Bon, vas-y, continue à parler, je vais te
comment
montrer.
Comment c'est mal fait ce truc-là, dis donc.
Ouais. 6-1, 7-1. En même temps, c'est normal, on cherche le score, c'est juste qu'il n'a toujours pas lieu au score.
Oh, 14-3,
je vais vous le montrer là, mais il y a 16-3 avec 4-35 à jouer, et il y a donc 18-3 avec 4-17 dans le premier quart temps.
À 4-17 de la fin du premier quart, il y a 18-3, et à la fin du premier quart, il y aura 23-22 Spurs.
Ouais.
Sur un gros 3 points, il y avait 23-19 et un gros 3 points d'Anthony Edwards.
Ouais.
Anthony Edwards qui aura été héroïque sur ce match.
Héroïque.
Monstrueux.
Ouais.
Très très fort. Mec joue quand même avec une hyper extension. Enfin, en gros, il s'est hyper. Enfin, il y a deux semaines. Voilà.
Bruce plus hyper extension.
Pas sûr qu'il puisse jouer. Le mec fait un vrai match offensif. Agressif, bon au tir et tout. Il y a vraiment la totale.
Bah, au premier mi-temps, il a quoi 20, plus de 20 points.
Ouah, il envoie du sale en première mi-temps.
Score.
Il se bat au rebond. Vraiment, il vient vraiment beaucoup aider ses bigs au rebond. D'ailleurs, Minnesota fait un grand match au rebond. Et en plus, en création offensive, bah, il a quand même, comme il était quand même la cible de la défense, il a su faire des différences, trouver ses poteaux et tout machin. Il faut le dire, je veux dire, les Wolves ont très mal démarré le match. Ils étaient menés de 10, 11, 1, puis menés de 13 ou 15, là, 18, 3 et tout. Mais ils recollent tout de suite. À la fin du premier quart. À la mi-temps, il y a 51 partout. Si
sur un autre gros 3 de Jane McDaniels au buzzer.
Exactement. Les mecs, voilà, ils lâchent rien du tout.
La résilience des Wolves,
elle est impressionnante.
On peut dire ce qu'on veut, mais exactement. Elle est vachement impressionnante parce qu'on l'avait vu sur le premier tour et depuis des années. Hein. Je veux dire, les Wolves, ils sont allés à l'époque de Karl-Anthony Towns, ils sont allés à Denver en Game 7, ils ont dit même pas peur. Ils sont allés par la suite face aux Lakers l'année dernière au premier tour, même pas peur. Ils ont ensuite terminé les Warriors bien comme il faut. C'est un groupe qui ne va jamais abandonner vraiment.
Le public. Les mecs étaient menés 11-1, 18-3. Le public, à chaque tir qui rentre, ils étaient là, ouais, tout ça y est, c'est reparti. Du coup, bah, ça les booste, les types.
Le Staples Center, là, on se réveille. Ouais.
Une bonne défense, un rebond, public debout, tu vois. Ouais. Genre, ça, ça fait plaisir aussi. Du coup, c'était vraiment un très gros match. Et la défense des Wolves a encore montré aussi, il y a leur qualité offensive, la façon dont ils peuvent faire tourner le ballon, et ils arrivent à faire des mini-runs face à cette très bonne défense des Spurs, hein, parce qu'en face, ça défend aussi, ça rigole pas du tout, attention. Hein. Et la défense des Wolves aussi, avec certaines variations, avec ou sans Gobert, je persiste là, mais vraiment dans cette série, je trouve que les passages avec le duo Randle-Reed sont mieux, vraiment mieux que ce que j'aurais pensé.
Et Naz-Reed fait un super match.
Ah ouais, Naz-Reed, il fait un super match 2, il fait un super match 1, il fait un super match 3.
Il y est, hein, lui, il est relou.
Il est là, lui. Hein.
Ce qui est un peu moins le cas de Randle sur ce match.
Un peu moins le cas de Randle, mais il y a quand même des petits... Il y a quand même des petits jeux. Alors moi, j'ai encore en tête, là, dans le deuxième quart, à un moment, il rate un 3 points. Il y a McDaniel, je pense, qui vient se battre au rebond offensif.
Bah, Thomas,
le mec,
hein.
Il drive. Il y a Wemby, il écrabouille un dunk sur sa tête. Ouais. Ça reste des coups d'éclat. Oui, dans la globalité du match, franchement, le match de Randle, là, en tout cas, surtout ce match 3, il y a surtout des tirs ouverts ratés, quoi. Ça, c'est,
mais c'est ce qu'a dit Anthony Edwards.
Ça fait chier, quoi.
Anthony Edwards, on a parlé après le match. Je suis content que tu dis ça parce qu'il a dit, les gars, je leur ai parlé après dans le vestiaire. Et après la défaite, je leur ai dit, les gars, je vous jure, nos tirs, si juste on les met, on le remporte ce match.
Bah, disons que genre,
je peux l'entendre.
Il y a beaucoup de tirs et je parle pas forcément de 3 points. Genre il y a des petits trucs de
avec
près,
la planche de
des
près.
Petits trucs de près, des petits mid range, des petits trucs un peu ouverts. Ça rentre pas.
39% au tir, hein, les Wolves hier soir.
Au tir
global.
Putain,
39%.
Pff, c'est chaud.
Oui,
c'est
oui.
Chaud. Mais c'est chaud. Ça se voit quand tu vois le match. Pour le coup, il y a vraiment des trucs. Ah putain merde, il a raté ça. Tu vois, t'es vraiment alors que. Et donc ça, c'est clair que ça leur joue des tours. Ça leur joue des très gros tours. Et après, il faut parler de la résilience de ces Wolves. Ils n'ont pas d'Anthony Vincenzo. Anthony Edwards joue blessé. Enfin, tu vois, genre, il y a beaucoup de complications. Mike Conley n'a joué que 4 minutes. Là. Il est blessé. Pourquoi il n'est pas revenu en jeu? Il n'est pas revenu en jeu pour choix du coach ou il s'est fait un petit truc? Je me suis demandé, en fait.
Il avait été bon à San Antonio.
Bah, complètement. Sur le début de série, ça va. Hein.
Il avait été clutch le pépère. Sur le game one.
Qu'est-ce que ça dit, Minneapolis?
Et bon, Mike joue 4 minutes. Mais bon. Non. Et puis quelque part, c'est parce que aussi Terrence Shannon peut être intégré en
complètement,
sortie.
Complètement.
Et puis Ayodosumnu, qui était incertain parce que lui aussi a des papins physiques, a pu aussi faire son entrée en jeu. Donc, face à la dynamite athlétique du backcourt des Spurs, quand même, hein, parce qu'il y a du sacré pépère en face. Ouais. T'es quand même content d'avoir un Ayodosumnu qui a plus de coffre, plus de vitesse, plus de taille.
Bah c'est ça. Parce que là, par exemple, pour jouer Castle. Bon, Castle a pas super bien shooté, mais il va chercher les lancers. Il fait des différences de fou malade et il lâche des pures passes à tous ses copains. Et en plus, défensivement, bon, là, attention, il y a 2-3 fois, il a pris des sauces, mais bon, c'est Anthony Edwards en face, donc.
Mon ami.
Ça arrive à des gens.
Mais lui et Devin Vassell, ils ont fait un sacré boulot sur Anthony Edwards.
Oui, voilà, mais Devin Vassell et Castle ont fait un sacré boulot sur Anthony Edwards, et Anthony Edwards, il a envoyé 32 points, 6 passes d'aise, 14 rebonds avec un genou en vrac. Ça donne aussi le niveau d'Anthony Edwards.
Tout à fait.
Un truc de malade.
32 points en 26 tirs. C'est aussi.
Oui, c'est
comme
pas son meilleur pourcentage.
C'est-à-dire que c'est ça aussi quand on parlait des pourcentages, c'est que San Antonio gagne en prenant. Au total, 14 tirs de moins que les Wolves. Minnesota a tenté 99 tirs hier soir.
Ouais.
Ils ont quasi envoyé 100 shoots.
Ouais.
Et tu mets même pas 110 points. Donc c'est ça pour en revenir à ce que tu disais de tu peux avoir des regrets parce qu'il y a des déchets sur des petites choses, etc.
Ah bah complètement, là, les Wolves peuvent vraiment avoir ces regrets-là.
Et tout au long de la partie, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le match, ou en tout cas ceux qui l'ont vu peuvent le confirmer, c'est toujours 2, 4, 6, 7, 5 points. D'écart, jamais San Antonio, hormis ce lead du début, va monter à 10-12.
En fait, au troisième quart, ils font plus 7. Donc, ils ont plus 7 au début du quatrième.
Ce qui est plus ou moins un blowout dans cette série. Hein.
Voilà. 7. Ça recolle un peu côté Wolves, hein, ouais. Clairement. Et après, il y a un money time. Il y a un money time très serré dans lequel Wemby joue avec 5 fautes. Tu vois, voilà. Dans lequel Carter Bryant. Putain, le match de Carter Bryant. Ça se voit pas forcément beaucoup dans la feuille de match parce qu'il a mis quoi, il a mis 2 tirs, 3 tirs.
Il a mis un gros 3 là, un
7-7
ouais,
là. Puis
il y a
un autre petit tir aussi. Combien de points il a mis Carter Bryant? Voilà, il a 6 points. 2 tirs à 3 points. Voilà, terminé. Mais attention. Dans toutes les petites choses, défensivement, premier rideau, waouh. Attention.
Bon, après, paraît-il.
Si là on tient pas un two-way de l'avenir. Vraiment, franchement, je pense que je me trompe beaucoup et je serais très surpris. Ah parce que vraiment, évidemment. Genre.
Moi, c'était un de mes chouchous de la draft précédente. Et d'ailleurs, j'en profite pour le juste pour un petit peu de trash talking. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur.
Quoi, 10 minutes ?
Ouais, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le fait que les Spurs ont eu consécutivement un pick 1 avec Wemby, un pick 4 avec Castle et un pick 2 avec Harper.
Bah, c'est vrai.
Tout à fait. Carter Bryant, il n'était pas top 5. Et on va lui souhaiter un très bel avenir, mais en tout cas, ce qu'il montre là,
non, mais
déjà
on,
à son jeune âge.
On avait parlé de son potentiel. Je veux dire, c'est super, c'est pas non plus une immense surprise.
C'est pas une immense surprise, mais il y a beaucoup de franchises qui peuvent regarder aujourd'hui, qui vont peut-être regarder plus tard et vont se dire merde, on aurait peut-être dû le prendre.
Ah oui, complètement.
Par rapport au côté, oui, les Spurs ont de la chance, il faut aussi avoir le nez fin de prendre le mec à ce moment-là plutôt
oui,
que d'autres
mais
joueurs.
Mais c'est pas non plus un pick 28. Hein,
c'est pas
c'est
un pick
28. Combien lui ?
Lui, il est dans le top 15.
11, ouais, 12,
un truc comme ça. Ouais. Mais ça, c'est un autre bon choix et une responsabilité donnée de la part de Mitch Johnson. Et c'est là aussi où, en effet, il y a eu un aspect dont je voulais parler avec toi et on parlait tout à l'heure en off, c'est on va parler de Victor. On va faire tout un passage sur Victor qui a été historique, mais. La façon dont De'Aaron Fox a joué a été utilisée et la fin de match avec le line-up utilisé par Mitch Johnson sans De'Aaron Fox.
Bah à la fin de match, avant les deux dernières minutes, tu veux
oui.
dire. Oui.
Qu'est-ce qu'on en pense ?
Bah bien, bien. De'Aaron Fox ne fait pas son match.
Non.
Il ne fait pas son match. Vraiment, ni défensivement, ni offensivement, ni dans les choix, ni dans l'agressivité, à part les deux petits lancers qu'il va chercher dans les deux dernières minutes, et tant mieux, c'est bien et tout. Mais sinon, j'ai pas aimé la façon dont il a pris ses tirs, j'ai vraiment pas aimé son match, et j'ai trouvé que les Spurs étaient beaucoup plus forts avec un duo d'arrière Harper-Castle. Mm-hmm. Mais vraiment, des deux côtés du terrain, je trouve qu'ils sont plus forts. Alors oui, Dylan Harper n'a pas le niveau d'expérience d'un De'Aaron Fox, c'est sûr, mais alors pour le reste, franchement, je pense que le duo est plus fort. Avec Vassell à côté, alors ça les oblige à faire des gros efforts pour défendre Anthony Edwards, mais l'avantage de Vassell par rapport à un Carter Bryant qui est plus athlétique, c'est quand même Vassell, les trois points, les trucs, enfin il a montré qu'il était capable d'être dangereux. Mmh. Mais oui, j'ai pensé beaucoup de bien. Et je trouve ça très intéressant que dans un moment crucial, à 6 minutes de la fin, quand c'est un peu la merde et tout, Mitch Johnson, il soit là. Non, non, De'Aaron Fox, tiens, reste le cul posé sur le banc et regarde comment,
pas d'histoire d'égo.
Regarde comment ils font les gamins.
Et ça, c'est bien.
Pas trop d'histoire d'égo et surtout, le coach a, pour moi, fait le bon choix.
Et il fait un bon moment choix, donné, tout à fait, pour Mitch Johnson, qui est aussi un testé sur ses playoffs, hein, parce que pour lui aussi, hein, c'est
sûr,
une première grande aventure. Situation de faute pour Wemby. Cinquième faute, 6 minutes à jouer. Une sortie de quoi ? Une minute à peu près ? Et tout de suite, Mitch Johnson en reparle à la fin du match. On a dit qu'on allait vider le chargeur avec Wemby. On le fait juste reposer une minute et on le remet sur le parquet avec ses cinq fautes. Et il arrive à finir le match. Ça aussi, c'est un choix qui est fait où tu te dis, bon, on y va. S'il prend sa sixième, il l'a expliqué en conférence de presse. C'est comme
c'est
ça, c'est dommage, mais c'est le jeu.
Mitch Johnson, là-dessus, pareil, il n'a pas le choix. Je suis désolé, il n'a pas le choix. S'il remet pas Wemby, moi, je pense que les Wolves gagnent le match. Clairement. Enfin, je veux dire, s'il attend trop longtemps ou quoi. Je veux dire, il faut comprendre que Castle, Harper, Castle a pas hyper bien shooté, mais il a très bien défendu, comme j'ai dit, playmaking. Harper, c'est intéressant. T'as Champagny qui a pas été le plus adroit ce soir, mais qui a mis un gros 3 très important à un moment dans le corner. Il se bat au rebond.
4 offensifs.
De'Aaron Fox, c'était pas trop son match et tout, machin. Je veux dire, il a fallu un Wemby extraordinaire offensivement pour gagner ce match.
Il fallait,
faut pas se mentir.
Il fallait chacun des 39 points de Wemby. Là, pour
mais oui, c'est ça, je veux dire. Les Spurs, là, ont une équipe forte avec des jeunes et tout, mais ils ont une équipe forte avec des jeunes et tout qui serait peut-être mené 3-0 là sans Wemby. En tout cas, c'est sûr, il serait mené 2-1 pour moi. Enfin,
oui,
sans Wemby,
oui.
Je veux dire, sans un match aussi extraordinaire de Wemby, parce que là, je veux dire, défensivement, on sait que le mec est extraordinaire quasiment chaque soir. Chaque soir, entre les rebonds, les contres, la dissuasion, les aides, les machins, genre tous les soirs.
Hier,
c'est...
c'était encore extraordinaire à regarder. Parce qu'il y a 5 comptes qui sont enregistrés, mais le niveau de dissuasion qu'il a et la façon dont il altère les attaques des Wolves, c'est quand même un truc.
Mais ça, c'est honnêtement, c'est quasiment à peu de choses près, c'est tous les soirs. Défensivement, c'est hors du temps, c'est extraordinaire, c'est du jamais vu, vous appelez ça comme vous voulez.
Mais je veux juste pas qu'on le prenne pour acquis.
Non.
C'est-à-dire que le mec, littéralement, ce qu'on voit est extraordinaire
défensivement. Oui, mais c'est tous les soirs. C'est ça que je veux dire. C'est extraordinaire tous les soirs ou presque. Là, ce qu'on a vu offensivement de la part de Wemby, on sait, hein, parce qu'il en a déjà fait des matchs incroyables en attaque, on sait qu'il est capable de faire des trucs de fou. Mais là, ce qu'on a vu dans un match de playoff où il y a une bonne défense en face et tout, c'est n'importe quoi.
C'est un de ses plus grands matchs en carrière.
Offensivement, c'est n'importe quoi. quoi.
Il met 39 points.
Les moves, le toucher.
Ah, bien sûr. Bah, moi, je me suis permis d'en faire une vidéo un peu sur Insta et TikTok pour revenir sur ça. 39 points, 15 rebonds et 5 contre. Il rejoint le groupe Karim, Hakim et Shaq. Karim Abdul-Jabbar, Hakim Olajuwon et Shaq O'Neal qui sont les seuls autres à avoir fait du match en 35-15-5 hein, dans l'histoire des playoffs, sachant que c'est son 8e match de playoffs en carrière. Wemby est à 39 points à 13 sur 18 au tir au global, 3 sur 5 à 3 points et 10 sur 12 au lancer.
Beaucoup de tirs de près. Ça commence le match, il fait un petit reverse dunk là, sur une petite passe de Castle ou Vassell, je ne sais plus.
Il y a Mike Conley sur lui, c'est Vassell qui lui met en
l'air. Ça met en l'air et puis voilà. Il y a eu pas mal de jeux un peu en transition où il a pu aller vers le cercle. Il y a eu un money time parce que l'autre, il joue avec 5 fautes en défense, il évite de faire la 6ème, mais de l'autre côté du terrain.
Il met 16 points dans le 4ème quart.
Et puis surtout, genre des attaques un peu statiques de merde, très bien défendues par les Wolves. Et puis bah, tu files la balle à Wemby, l'autre il fait des fadeaway, turnaround, step back de grand malade mental. Moi, il met des gros 3 points. Enfin.
Moi, j'étais hyper impressionné par la façon dont les Wolves pourtant ont tenté d'ajuster des choses, parce qu'il faut le voir hein, dans le match, notamment le fait que, comme tu le dis au tout début, il y a des connexions intérieures qui font que Wemby score assez facilement, comme tu le dis, passe de Vassell, passe de Castle, il y a un N1 en transition.
Et c'est bien de le chercher.
Sur McDaniels, on y va, on va essayer de le mettre en effet en confiance. Et dès le début du troisième quart, Minnesota drop un petit peu plus parce que l'autre vient de nous faire quand même à l'intérieur quelque chose, et là ça commence à rentrer. Dès le troisième quart, on met un gros 3 points. On a ensuite un pick and roll inversé, Wemby balle en main, écran de Keldon Johnson pour aller finir à l'arceau. Quand Rudy n'est pas sur le parquet, rebond offensif et je vais aller scorer.
Non, non.
Quand je me retrouve à 7-8 minutes de la fin et qu'il faut qu'on compte sur moi, il y a 16 points dans le quatrième quart de Wemby. C'est-à-dire que là, pour un mec qui est en NBA depuis quoi, 4 ans. Là, ça y est, là.
Quatrième saison.
On est sur un gars qui...
Troisième saison.
On n'a même pas démarré la quatrième. Pour n'importe quel superstar NBA, on n'attendrait qu'une seule chose de la part de ce genre de joueur dans un Game 3 à l'extérieur alors qu'il y a un partout. C'est une performance historique. Et il le fait. Il le délivre. Tu parlais des pourcentages. Je pense que c'est très bien de le dire par rapport à la perf globale de ces Spurs. Si tu retires les pourcentages de Wemby sur la feuille globale... Hein, c'est-à-dire que les Spurs sont à 39 sur 85.
Non mais vraiment, c'est...
Wemby, il est à 13 sur 18. Ça veut dire, tu dois être plus rapide que moi, qu'ils sont à 26 sur 67.
Non, mais c'est écœurant pour les Wolves.
Sans Wemby, les Spurs...
Pour les Wolves, c'est ce que je te dis. Je pense
il fallait chacun des points
pour
l'emporter.
Si tu n'as pas ce Wemby extraordinaire en attaque, je ne pense pas du tout que les Spurs le prennent du tout. Je pense que c'est vraiment... Sans parler même que du money time, d'une manière globale... Ce à quoi on a assisté offensivement, c'est digne d'un mix entre KD et Giannis, quoi. C'est n'importe quoi.
Il y avait KD, il y avait Giannis, il y avait Hakim, il y avait Dirk.
C'est n'importe quoi.
Il y avait Ralph Sampson, il y avait Yao Ming.
Impossible à défendre. Écœurant pour les Wolves.
Et pourtant Rudy essaye.
Ouais, il se défend bien. Hein. Même, tu sais quoi, même Nazri et tout, ça taffe, hein, ça taffe. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, quand tu le repousses, tu l'obliges à être dos au panier. Le mec, il te fait un turnaround par-dessus, il fait 2m24, un truc en déséquilibre complet à 4m50. Il y a ficelle, qu'est-ce que je te dise, moi? C'est écœurant.
c'est tout à fait ça, c'est écœurant. Et j'ai bien aimé qu'il ait eu l'occasion d'en parler après le match sur le fait notamment qu'il vit pour ce genre de moment. C'est-à-dire que Victor ne recule pas face à ça.
Il n'a pas peur du moment.
C'est-à-dire que la première chose qu'il dit en sortie de match, c'est « Les gars, en fait, pardon, mais j'attendais vraiment de vivre ces moments-là, en fait. Ces matchs à enjeu, je suis fait pour ça. » Et tu le sens, on l'avait vécu au tout début de sa carrière avec l'équipe de France, avec les JO, on le voit là avec les Spurs sur les playoffs. Lorsqu'il y a des grands moments et qu'il a attendu, le mec a plutôt tendance à délivrer. Alors, il y aura des hauts et des bas parce que ce sont ses premiers playoffs, mais il faut se rendre compte. J'ai eu quelqu'un qui a balancé ça sur Twitter hier soir. Si ça se trouve, c'est une des pires versions de la carrière de Wemby. C'est-à-dire que le mec, il est en année 3. Il est en année 3. Qu'est-ce que ça va donner dans son prime? C'est écœurant.
Disons qu'on a en playoff, où nous avons maintenant la démonstration dans un match de playoff face à une grosse défense qui a beaucoup plus d'expérience. J'ai vu la stat passer là. Les starters des Spurs, ils cumulaient 46 matchs de playoff avant ce match. Okay.
C'est moins que McCollum, il y a lui
seul. Et Minnesota, les starters cumulaient 344 matchs de playoff. Niveau d'expérience n'a rien à voir. Donc face à une équipe expérimentée, défensive, dure à jouer, motivée, à domicile, dès que son public qui pousse au cul et tout. L'autre est extraordinaire en défense, je le rappelle, c'est très souvent le cas. Et là, on a la démonstration que possiblement, en fait, tu peux avoir l'enfant de Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo en attaque, quoi.
Avec Hakim en défense.
Super. Hakim grand, un grand Hakim. Hakim grand.
C'est un des matchs dont on se souviendra parce que c'est ce qui se passe avec les grandes jeunes légendes. Du coup, ça permet aux Spurs de faire ce qui était prévu. C'était pour eux de reprendre l'avantage du terrain dans la série parce qu'ils avaient lâché le match 1 face aux Wolves. Donc tu mènes 2-1. Et on en avait parlé dans la vidéo avant-hier, Alex. Ils sont allés à Portland, qui était un autre type de steak, hein, un peu moins cuit que les Wolves, mais ils ont été à Portland. Le Game 3 était sans Wemby. Il y avait eu du très gros Dylan Harper et Stephen Castle.
Ils avaient pris ce Game 3.
Et le Game 4 avait été un très gros Fox et Wemby,
ouais,
notamment. Avec du bon Devin Vassell, on était au Grand Rex.
Ouais.
Quand tu te projettes là sur le Game 4, parce que tu peux avoir des regrets si t'es Minnesota,
ouais,
qu'est-ce que t'attends, Alex, au-delà de la partie pronostique, qu'est-ce que tu vas le plus surveiller ?
Bon, moi, j'ai tout à fait confiance en ces Wolves pour revenir avec le même genre d'intensité, des bons plans de jeu. Il y a toute une base de leurs plans de jeu là, du Game 3 qu'ils peuvent garder, ils le savent. Il a raison, Anthony Edwards. Il y a des tirs qui ne sont pas rentrés, qui habituellement rentrent. Des petits mi-distances, des petits trucs auprès et tout, machin. Enfin, franchement, il y a des trucs qui habituellement auraient pu rentrer. Et d'ailleurs, malgré le gros match de Wemby, ça aurait pu suffire. Mm-hmm. Je rappelle qu'à la fin, ils le perdent de combien de
7 points, mais il y a entre 3 et 4 points d'écart.
Ils sont complètement là, malgré l'autre alien. Tu vois. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien noter pour les Wolves. Donc, pour moi, les Wolves ne doivent pas tellement changer grand-chose. Déjà, de toute façon, entre l'absence de Dante DiVincenzo et le fait que Edwards n'est pas à 100% et tout, bah, ils n'ont pas non plus une marge de manœuvre de fou. Ils ont Dawson Mou à sortir du banc. On va voir si Conley est re-titulaire ou pas. Hein, parce qu'il a joué à peine 5 minutes, donc on va voir. Donc on va voir, mais voilà, Terrence Shannon, tu vois, voilà, on la connaît la rotation, et Nazrid, quoi. Voilà, ils ont 8 joueurs. voilà, ils vont pas, je crois pas qu'ils vont aller piocher, nous sortir du Jalen Clark ou
non,
des
non,
gars comme ça. Là, t'es d'accord?
Normalement, c'est à 8.
Hein, voilà. Donc, je vois bien les Wolves réitérer un plan de jeu, et je les vois bien l'appliquer tout aussi bien, voire un peu mieux, parce que même si Anthony Edwards est un petit peu moins héroïque, je pense que autour de lui, ça ne peut quasiment que mieux shooter. Randle, même McDaniels ou des gars comme ça, tu vois. Randle aussi, hein.
Randle. Ah ouais, ils sont à 8 sur 34 le duo, là.
Voilà, tu vois. Donc, je les vois bien et je les vois bien prendre le Game 4. Si tu veux, voilà, tout de suite, comme ça, c'est posé.
Ça,
moi,
c'est
je
posé.
Vois bien que ça repart à San Antonio à 2-2. Ça veut dire que San Antonio, en fait, est venu et quand même a fait le taf chez un adversaire hostile, a repris l'avantage du terrain. C'est aussi ça, le truc de San Antonio.
Oui.
Là, voilà. Donc, moi, voilà, ce serait ça, mon pronostic. Pour le coup, j'ai confiance en ces Wolves pour ne rien lâcher et montrer que non, non. Pardon, mais juste non, non.
Genre, on en a 7 hein, sur cette série. On a annoncé 7.
Moi, je crois que moi, j'ai dit 7
sure,
aussi.
4-3 Spurs.
Ouais, 4-3 Spurs. Le petit Game 7, oh, bah, on prend. Elle a le petit Game 7 à San Antonio, on prend deux ouf. Hein.
Moi, je t'avoue que la première chose que je vais surveiller, c'est l'entame des
4,
Wolves.
4-3, ouais.
L'entame des Wolves. Attention, les gars. Attention, là, tu peux pas te permettre.
C'est vrai que là, ils peuvent regretter l'entame ils peuvent regretter l'entame de ce Game 3. Ouais.
Parce que tu fais trois bons cartons. Hein. Le premier, bon, tu reviens, mais t'as quand même galopé après le score, après une entame difficile. J'attends des Wolves très agressifs dès le début du match et bien plus efficaces.
Continuer à attaquer Wemby. Ok, ils prennent des contres, mais ils lui font faire des fautes.
Et ça,
c'est un bon plan de jeu.
Tout à fait, ils vont continuer à le faire. Et ça, on en parlait dès le Game 1. On avait fait du React tous les deux. Terrence Shannon, il l'a dit. Nous, dans le vestiaire, on a dit super. Il a combien? 13 contres. Bah, vas-y, on remonte 27 fois s'il faut.
Ouais,
s'il aura 27 contres, très bien. Il aura aussi 5 fautes.
Ouais, il a raison.
J'ai envie de dire 2-2 aussi. Mais en fait, j'ai envie de parler aux fans des Spurs. Il y en a un paquet en France. Cette équipe m'hallucine.
Ah bah là c'est clair,
on
est tous d'accord.
Cette équipe prend les changes un par un et dit il y a quoi. C'est-à-dire que moi honnêtement, quand il y a eu 1-1 Blazers Spurs avec l'incertitude sur le crâne, moi j'avais les miquettes, Alex.
Ouais.
Moi je me suis dit on va retourner à San Antonio à 2-2 et encore.
Ouais.
Parce qu'on sait pas si Wemby va revenir, dans quel état, avec la commotion cérébrale, et j'espère que les jeunes sont prêts. Tu parles. Les deux matchs qui ont lieu à Portland, c'était extraordinaire. Et lorsqu'on s'est dit est-ce qu'ils vont finir le boulot, ils l'ont fini. Alors c'est un autre niveau, mais
ouais, ça a rien à voir.
C'est un autre niveau. Mais je trouve qu'il faut souligner la façon, disons, aborder ces premiers challenges avec brio. C'est-à-dire que ces Spurs inexpérimentés, pour le moment, il y a quoi? Il y a 8 matchs. Il y a combien de jeux? Pardon, ils ont 5 et... Ouais, ils ont joué 8 matchs de play-off. Là. 8 matchs de play-off et ils ont 6 victoires.
Ouais, 8 matchs. Ouais.
En détente. Ce serait incroyable que cette équipe soit capable, en plus, de remporter le Game 4. Vraiment,
Du coup, c'est quoi ton pronostic? Parce que bon... Tu dis 3-1 du coup. Bah pourquoi pas, c'est possible.
J'en reste au... J'en reviens aux clés dont on a parlé dans la preview. Je pense que si San Antonio défend comme ils sont capables de défendre à leur max du max, j'aime bien les Wolves, mais je pense que San Antonio est capable de finir ça proprement.
Ah ouais, c'est marrant parce que je vois ce que tu veux dire, mais moi je trouve que les Wolves attaquent vraiment bien. Ah. Et là par exemple, ils ont mal shooté. San Antonio a bien défendu, mais les Wolves en shootant un tout petit peu mieux, eux aussi mettaient 115 points. Ah.
Je vois par exemple, je serais pas étonné qu'il y ait un match limite un petit peu avec un peu moins de scoring.
Ouais, peut-être.
Et que dans ce genre de tranchée là, peut-être qu'il y a des gars qui vont un peu plus répondre. Je sais pas. Toi tu dis 2-2 en tout cas. Ouais. Moi je vais dire 3-1, mais parce que
je pense que j'ai confiance en les Wolves. Je les vois bien ne pas du tout lâcher le steak et dire attends. On continue.
Oui, d'ailleurs, on continue. Préférais, en soi, sur le prono, on a dit on va en 7. On veut qu'il y ait 2-2, 3-2, 3-3, 4-3.
Et, mais enfin, voilà, je trouve que ça, cette série confirme un peu confirme un peu l'opposition.
Tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez, évidemment, de ce match extraordinaire de Wemby, de cette série Spurs-Wolves et puis de ce Knicks-Sixers dont on a parlé. Je rappelle donc le programme de ce soir, 21h, le match entre les Cavs et les Pistons. On va à Cleveland, dans la fournaise, pour voir si les Cavs peuvent enfin remporter un match face à Détroit. Dos au mur, hein, on a dit. Hein.
Déconner.
Dos au mur. 1h30 du matin, je crois, direction Los Angeles. Ou 2h30 2h30 peut-être du matin. 2h30 du matin.
Ouais, parce que 1h30, ça me paraît un peu tôt.
1h30, ce sera le lendemain.
2h30.
Tout à fait. Et donc, dimanche, on vous le rappelle, donc 20h30, on se retrouve sur Twitch pour commenter la loterie en direct. Ouais. 21h30, il y aura le Game 4 entre les Knicks et les Sixers. Et à 1h30 du matin, il y aura le Game 4 entre Wolves et Spurs. Il est tôt, on en profite. C'est le bonheur. Nous, on se retrouvera évidemment pour d'autres petits débriefs.
Bah oui, nous, on va continuer à débriefer tout ça au jour le jour.
Exactement. Et on vous souhaite un super week-end. Des bisous. À
ciao.
Très vite.
Bisous, ciao. Tout le monde.